Classique.
Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter sur, au fond, les suites du vote de la loi sur l'immigration et sur ses conséquences politiques, évidemment. Nous sommes avec Frédéric Dabi, qui est le directeur général opinion de l'IFOP. Merci Frédéric d'être avec nous et bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Donc, nous venons de vivre une séquence politique aiguë, avec beaucoup de brouhaha, beaucoup de tensions autour du vote de cette loi qui a finalement été votée et au Sénat et à l'Assemblée nationale dans une version qui n'était pas celle du gouvernement, qui était au fond la version du Sénat, la version, j'allais dire, Retailleau, du nom du président du groupe des sénateurs LR, avec une crise ouverte au sein des troupes macronistes, puisque un certain nombre de députés qui sont là au nom du président de la République, d'ailleurs, se sont soit abstenus, soit ont voté contre. Donc, avant d'aller plus loin dans les implications de ce qui a été une crise politique, même s'il faut aussi garder le sens du relatif, parce que rappelons-nous le brouhaha qui avait entouré les différents épisodes qui ont entouré le vote de la loi sur les retraites. Et les manifestations qui l'ont accompagnée. Bon, ben la loi a été votée, elle s'applique maintenant et ça paraît de l'histoire très ancienne. Et donc, de la même façon, j'imagine, ce texte sur l'immigration va s'appliquer et une fois qu'il sera appliqué, peut-être on passera à autre chose. Mais auparavant, Frédéric Dabi, avec vous, quel est le sentiment des Français sur cette affaire ? Parce que au point de départ, il me semble avoir lu que les Français souhaitaient un texte sur l'immigration, et que dans ce souhait, il y avait à la fois un soutien à l'idée de fermeté, mais aussi un soutien à l'idée d'une meilleure intégration, et donc notamment de ces travailleurs dans les secteurs dits en tension. Alors, est-ce que cet équilibre, finalement, qui n'en est plus un, si je lis bien les gazettes, est-ce que cet équilibre, ou ce faux équilibre, continue de satisfaire les Français, ou est-ce qu'il y a une part de déception chez une partie de l'opinion française ? Frédéric Dabi.
Vous l'avez dit, les Français souhaitaient une loi parce qu'ils trouvent que sur la question de l'immigration, il y a une perte de contrôle de l'autorité de l'État, une difficulté à organiser sa politique migratoire. Ils souhaitaient une loi, très clairement. Le rejet du texte aurait été extrêmement mal perçu. Et donc, dans ce cadre-là, les enquêtes publiées, je pense à mon confrère Elab, montrent tout naturellement un soutien de l'opinion publique très fort, de l'ordre de 70% au projet de loi d'une manière générale, aux différentes dispositions. Il y a que celle sur la rétention administrative des mineurs qui clive l'opinion publique. Et vous avez parlé, Jean-Marie, je vous ai écouté, de brouhaha, de crise des troupes macronistes. Je vais le dire extrêmement franchement et nettement, ce n'est pas l'affaire des Français. D'une part, la scène parlementaire n'est pas une scène très visible. D'autre part, les Français, il faut le dire également, sur la question migratoire, sont plutôt beaucoup plus consensuels que par le passé. Le clivage gauche-droite qui est revenu en force à l'Assemblée nationale, sur la scène parlementaire, sur la scène faite politique, le clivage gauche-droite structure la question migratoire chez les élus. Il n'y a qu'à voir l'analyse des votes. 100% des députés de gauche qui ont voté contre, 100% des députés, des parlementaires LR et RN qui ont voté pour la loi, le groupe macroniste qui s'est plus ou moins fracturé. Ce n'est pas ce que les Français répondent, expriment. Le clivage gauche-droite s'est complètement effondré. Je vous donne deux petits exemples sur un sondage IFOP récent d'octobre dernier. Une majorité de sympathisants LR qui soutiennent la régularisation de sans-papiers dans les métiers en tension, et une majorité très nette, de l'ordre de 75%, de sympathisants de gauche qui souhaitent que les délinquants étrangers condamnés puissent être expulsés à l'issue de leur peine. On n'a pas du tout retrouvé ce consensus, cette unanimité, je serais peut-être pas aussi clair, aussi ferme, mais cette nette majorité de Français dans la traduction parlementaire et politique. Donc pour les Français, il n'y a pas de crise. Et pour Emmanuel Macron, il était face à deux risques. Le risque de l'impuissance politique et cette loi rejetée, pas votée, c'était, si je puis dire, un CPE à la Jacques Chirac, une chiracisation et vraiment la fin du quinquennat 3 ans avant l'élection présidentielle. Et l'autre risque, c'était sacrifier ou mettre à mal sa jambe gauche. Ce risque qu'il a pris était infiniment moins fort et moins important.
Jean-Claude Casanova.
Oui, je suis très intéressé par ce que dit notre ami Frédéric, parce que je partage son sentiment, si j'ose dire. Mais surtout, si on regarde la scène européenne, c'est exactement ce qui se passe. L'ensemble des pays européens redressent leur politique de l'immigration, quels que soient les partis politiques concernés. Au Danemark, c'est la gauche du Danemark qui durcit l'immigration. En Suède, c'est la droite de la Suède qui durcit l'immigration et qui, curieusement, est devenue majoritaire en Suède. Et donc, il y a un phénomène général en Europe, que l'on voit d'ailleurs dans la décision un peu précipitée du Parlement européen de durcir le système européen en matière d'immigration. Le Parlement européen s'est précipité parce qu'il sait qu'aux prochaines élections européennes, il y aura un glissement sur les problèmes d'immigration. Et il y a un problème général de l'Europe en matière d'immigration qui est la reprise du contrôle de l'immigration, tout simplement. Et il y a deux partis favorables à l'immigration. Un qui a une base économique et qui se situe plutôt à droite, c'est-à-dire c'est les gens qui considèrent, qui veulent des facteurs de production, qui raisonnent en termes de facteurs de production, et une partie de la gauche qui, Macron l'a très bien expliqué d'ailleurs, qui est hostile à l'immigration parce que ça crée un degré d'hétérogénéité et de faiblesse sur le marché du travail qui déplaît à la partie populaire de la population. Si les ouvriers aujourd'hui ne votent plus par les partis de gauche, c'est essentiellement pour cette raison.
Frédéric Dabi.
Oui, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Il y a peut-être des groupements de la population favorables à l'immigration. On a une gauche qui n'a pas évolué de la même manière que sa base. Et d'ailleurs, ce qui vient de se passer, hein, si, puisqu'on est à la fin de l'année, on est dans une logique peut-être rétrospective de 2023, je suis frappé de voir, si on quitte cette question de cette loi qui a été votée, alors on voit que localement, il y a une partie d'élus de gauche locaux qui se mobilisent, qui n'appliqueraient pas la loi, mais je pense que les Français vont très vite passer à autre chose. Mais ce qui me frappe ces derniers mois, c'est le décalage quasi systématique entre les élus de gauche, notamment ceux de la France insoumise, hein, c'est la France insoumise qui domine la NUPES et le rapport de force à gauche, ce décalage entre ces élus de gauche et ce que nous disent dans nos enquêtes le peuple de gauche, pour parler comme François Mitterrand, les sympathisants de gauche. Vous ne trouverez pas une majorité de sympathisants de gauche qui dit que la police tue, qui dit qu'il y a un racisme systémique, contre l'abaya, l'interdiction de l'abaya à l'école, hein, la mesure de Gabriel Attal, qui voit les émeutes urbaines du mois de juin comme des révoltes populaires sur le pouvoir d'achat, et qui ne voulait rien faire sur l'immigration, voire au contraire souhaitait un nouvel appel migratoire et de nouveaux immigrés dans le pays. C'est peut-être une leçon, si on s'éloigne du court terme, de cette séquence. Bien sûr, la fracturation du groupe macroniste, on va en parler, mais aussi et surtout une crise de la gauche qui n'est pas seulement le leadership jugé malsain et mortifère de Jean-Luc Mélenchon qui tend à devenir l'homme le plus riche du cimetière de la gauche, mais ce décalage, ce hiatus entre ce que portent les élus de gauche nationaux et le peuple de gauche.
Encore que, il faut se rappeler quand même que le virage de la gauche sur ces questions, notamment migratoires, date du gouvernement Jospin. Le gouvernement Jospin, il y avait même d'ailleurs Jean-Pierre Chevènement à l'intérieur, oui, il me semble, et qui avait d'ailleurs entamé et obtenu cette conversion de la gauche au réalisme, au fond. Et donc, d'ailleurs, du temps de Jospin, il y a eu une loi immigration qui a d'ailleurs, à un moment, fait consensus. Et depuis, si on regarde la gestion de François Hollande, elle est tout à fait dans ce périmètre-là. Si on regarde le comportement, d'ailleurs, aussi bien de Bernard Cazeneuve comme ministre de l'Intérieur, puis comme Premier ministre vis-à-vis des questions migratoires, notamment à l'égard de l'Italie, on ne peut pas douter un seul instant que la gauche ne soit pas convertie au réalisme. Cela dit, aujourd'hui, ça n'est plus cette gauche-là qui est visible.
Bien sûr.
Aujourd'hui, c'est la gauche mélenchoniste qui a le haut du pavé, et donc c'est de là probablement que vient ce hiatus. Mais on a évoqué donc la rupture et la fracture, ou là, je ne sais pas si on peut parler de fracture, en tout cas, les dissensions au sein du groupement de la majorité majoritaire où il y a à la fois des élus macronistes, il y a des élus Bayrou, c'est-à-dire de centristes, et puis il y a les élus Édouard Philippe du groupe Horizon. Donc, comment regardez-vous cette situation, Frédéric Dabi? Est-ce qu'elle est porteuse, lourdement porteuse? Est-ce qu'elle va handicaper les trois dernières années qui restent à Emmanuel Macron? Comment regardez-vous les choses, Frédéric Dabi?
Alors, la question qui se pose, je la pose un peu différemment de vous, mais un peu dans des termes analogues. Est-ce que cette l'émergence pour la première fois de frondeurs, pour reprendre le terme du quinquennat Hollande, au sein de la majorité présidentielle, de la majorité législative relative, donc déjà extrêmement fragilisée, est-ce que c'est conjoncturel, c'est lié à un texte, comme je l'ai dit, qui structure gauche-droite ou qui fracture le champ politique des élus nationaux, ou est-ce que ça a quelque chose de plus profond dans une logique où Emmanuel Macron perd de l'autorité, si je puis dire, tous les jours, puisque on bascule de plus en plus, même si 2027 c'est tellement loin pour comment dire les Français et même pour beaucoup d'élus. Moi, je suis plutôt sur la pente que c'est très conjoncturel. Que la majorité relative, parce qu'elle est relative, doit serrer les rangs et doit jouer des coudes, si je puis dire, pour ne pas être renversée lors d'une motion de censure qui coaliserait toutes les oppositions. C'est pas un scénario improbable. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Marie, il y a une quinzaine de jours? Ça a été cette motion de rejet où toutes les oppositions ont voté pour la motion de rejet du texte, d'où la crise politique, en tout cas la crise à l'échelle parlementaire qui a émergé. Donc je serais plutôt sur une logique de crise conjoncturelle, mais un ministre qui part, même si ça n'a pas fait beaucoup de vagues, c'était pas un ministre, c'était pas le Jean-Pierre Chevènement dont vous parliez tout à l'heure, ou le Michel Rocard de 1985 qui avait démissionné suite à l'instauration de la proportionnelle. Je pense qu'on est sur quelque chose de conjoncturel et que la majorité va revenir à une unité au moins de façade.
Jean-Claude Casanova.
Si je peux me permettre une image un peu osée, je dirais que le Parlement a accouché d'une loi et que ça a provoqué des grossesses nerveuses dans une fraction disons du groupe dominant à l'Assemblée. Parce que, et je voudrais, si vous le permettez, vous soumettre le raisonnement suivant en distinguant la procédure et la politique. Alors la procédure, c'est la loi sur l'immigration a été soumise au Sénat qui a délibéré. Elle a été soumise à l'Assemblée qui n'en a délibéré qu'en commission. Il y a eu une idée saugrenue, du point de vue du résultat obtenu, de la part des écologistes, de proposer le rejet du texte. Donc l'Assemblée n'a pas délibéré. Ça pose d'ailleurs peut-être un problème de droit constitutionnel. On verra si le Conseil constitutionnel accepte qu'une loi est validée, bien qu'elle n'ait pas été délibérée en première instance par l'Assemblée nationale. Alors, il s'est produit un phénomène classique, la commission paritaire s'est prononcée, et après la proposition de la commission paritaire, une majorité s'est dégagée. Parce que on dit toujours, nous sommes en majorité relative. Non, le parti macroniste, la coalition macroniste, est une minorité. C'est la minorité la plus importante. Pour constituer une majorité, elle a besoin d'alliances. Et là, on passe à la politique. Alors, regardez la politique. Qu'est-ce qui s'est passé pour les retraites? Eh bien, il y a eu une majorité qui s'est constituée avec LR, mais ça a été une majorité non négociée et informelle. Et là, il y a une majorité qui s'est dégagée avec LR, et ça a été une majorité négociée et formelle. C'est la différence essentielle qui s'est produite. Et c'est ça, d'ailleurs, qui crée la nervosité. C'est-à-dire que, brusquement, une partie du parti macroniste se sent obligée à une alliance, mais sans cette alliance, il n'y a pas de majorité. Et d'une certaine façon, je pense que c'est un progrès institutionnel pour la France de comprendre que, compte tenu de la répartition des électeurs désormais, c'est vrai pour toute l'Europe, il n'y a que les coalitions qui peuvent fonctionner. L'idée d'un parti dominant, d'un parti majoritaire, est une idée dépassée, si vous voulez, et de ce point de vue, je trouve cette crise institutionnelle bénéfique.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes avec Frédéric Dabi, le directeur général opinion de l'IFOP, et nous essayons de peser les incidences politiques du vote de la loi immigration. Jean-Claude Casanova, à l'instant, plaidait l'idée qu'au fond, nous avons vécu sous l'empire du fait majoritaire pour toute la durée de la Ve République, et qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans autre chose, c'est-à-dire dans une logique de fait minoritaire qui oblige les gouvernements, le gouvernement, à des coalitions. Alors, est-ce que les Français ont une idée de cette, ont un souhait dans ce domaine, Frédéric Dabi? Et comment regardez-vous l'analyse même de Jean-Claude Casanova, Frédéric Dabi?
Alors, je partage complètement l'analyse de Jean-Claude Casanova. Je rajouterais quelque chose qui est tellement évident qu'il ne l'a pas dit. Tout cela se fait dans cette logique si inédite sous la Ve République, la fin de la bipolarisation, où les difficultés d'une majorité absolue profitaient à une opposition unique minoritaire et qui pouvait l'emporter, créer des conditions de l'alternance. Tout cela, c'est fini. Quand l'IFOP, avec le journal du dimanche d'il y a quelques jours, tenter de mener une enquête quantitative sur les intentions de vote aux élections législatives, on voit très bien qu'en cas de dissolution, la chambre actuelle sera encore plus introuvable, pas de groupe fait majoritaire, sans doute le RN arriverait en tête parmi des groupes, mais absolument pas en majorité absolue, avec encore moins de députés que la majorité actuelle. Tout cela bloque les choses. Maintenant, le regard des Français sur des coalitions. Je dirais qu'il n'y a pas de regard spontané. Ces affaires, ce n'est pas la question des Français. Les Français, dans leur rapport aux politiques, au personnel politique, sont sur deux logiques. D'abord, une logique d'attente, de constat, du discours sur l'état de la société que doivent faire les politiques, sans déni. Par ailleurs, et c'est le plus important pour les gouvernants, une attente de transformation, d'action, du fameux « changer la vie mitterrandien ». Et donc, dans ce cadre-là, bien sûr, la question des coalitions passe. Après, maintenant, dans des enquêtes quantitatives, dans des sondages où on stimule, où on pose la question aux Français, on trouve une petite majorité ou une forte minorité d'entre eux qui voient naturellement la possibilité d'un contrat de gouvernement, d'une alliance, d'un bloc entre Renaissance et LR. Puisque dans la guerre des trois blocs que l'on connaît dans le pays, qui va durer jusqu'en 2027, le bloc NUPES de gauche, le bloc RN et le bloc central de la majorité, on se demande où se trouve LR. Et donc, beaucoup de Français, y compris de droite, attendent une alliance LR-Renaissance. Quand on regarde les mois passés, quand on regarde la réforme des retraites, quand on regarde cette réforme, ce projet de loi sur l'immigration, cette alliance n'apparaît aujourd'hui, ici et maintenant, absolument pas naturelle.
Et en même temps, on voit bien que les dirigeants LR s'y refusent, à commencer par le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, qui a mené la bataille la plus radicale contre le gouvernement, Frédéric Dabi.
Oui, là aussi, hein, c'est un peu mon leitmotiv aujourd'hui, il y a un décalage ou un hiatus fort entre ce que nous disent les sympathisants de droite, les sympathisants LR dans nos enquêtes, et la traduction parlementaire. Les sympathisants de droite n'avaient aucun état d'âme pour soutenir très fortement ce projet de loi immigration. Ces sympathisants de droite, d'ailleurs, expriment une cote de satisfaction très majoritaire du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ce n'est pas ce qui est ressorti des débats parlementaires, où tout ça s'est fait dans la douleur.
Jean-Claude Casanova.
Oui, non, d'abord, je crois que les républicains du Sénat réfléchissent davantage que les républicains de l'Assemblée. Et ça donne toujours un avantage quand on réfléchit davantage. Et d'autre part, c'est les écologistes qui ont fourni au LR de l'Assemblée l'unité qui leur manquait. Dans l'affaire des retraites, si vous voulez, ils ont collaboré avec la minorité importante macroniste. Ils ont collaboré dans le désordre. Là, ils ont collaboré dans l'ordre. Grâce, encore une fois, grâce aux écologistes. Il faut à ce point de vue-là, j'espère qu'ils les remercieront. Sans les écologistes, ils auraient peut-être été en voie dispersée.
Alors, dans la bataille de communication qui a accompagné le déroulement de ces journées, à la fois la France Insoumise d'un côté et le Rassemblement National de l'autre ont imposé l'idée que, au fond, nous arrivions à mettre en forme, dans un texte de loi, la préférence nationale. Alors, le Rassemblement national a dit c'est la préférence nationale, c'est notre victoire idéologique. Et l'extrême gauche, enfin les mélenchonistes ont dit c'est scandaleux, c'est la préférence nationale. Et donc le gouvernement s'est trouvé pris dans cette double ce double slogan en quelque sorte, et donc se trouve lui-même obligé d'essayer de se contorsionner pour montrer que non, ça n'est pas à ce point une concession à l'idéologie du Rassemblement national. Est-ce que les Français ont une idée de cela, ou est-ce que, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Frédéric Dabi, ils sont loin de ce théâtre-là, et ils restent, j'allais dire, beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus concrets dans leurs revendications et dans leur analyse des choses?
Oui, très clairement, les Français sont dans une logique d'efficacité, de pragmatisme. Ils appréhendent l'immigration à travers deux prismes. D'abord, ce n'est plus un enjeu étanche, isolé, mais c'est un enjeu qui déborde sur d'autres thèmes. Et les Français opèrent un lien majoritairement, on peut le déplorer, mais on le voit dans nos enquêtes entre insécurité et immigration. Beaucoup de Français, notamment des jeunes, opèrent un lien entre immigration et climat, les réfugiés climatiques. Les Français de droite extrême associent l'immigration à la baisse du niveau d'éducation. Donc ce n'est plus un enjeu, si je puis dire, étanche, isolé, même s'il faut le dire, en tant que tel, ce n'est pas le premier enjeu pour les Français, loin de là. Et deuxièmement, ils sont dans une logique d'efficacité et dans une logique où ils attendent de l'État qu'il reprenne le contrôle. Le mot-clé sur l'immigration à gauche et à droite, c'est le contrôle de sa politique migratoire. Ce qui s'était passé il y a plusieurs mois avec des réfugiés de l'Aquarius à Marseille qui s'étaient évaporés, je crois 200 en à peine une journée ou deux, avait marqué les esprits. Maintenant, le terme préférence nationale, si je voulais faire un trait d'humour, c'est un mot Voldemort du nom de l'ennemi d'Harry Potter, dont il ne faut même pas prononcer le nom. Vous l'avez très bien expliqué, Jean-Marie, vous prononcez ce terme dans le champ politique, vous clivez, vous fracturez, et vous voyez émerger le récit de la droite extrême du RN sur « ça y est, nous ne sommes pas encore au pouvoir, mais nos idées sont en train d'être appliquées », et ceux de la gauche qui vont crier, comme toujours, à l'extrême droite. Ce n'est pas, je le répète, la manière dont les Français se saisissent du sujet.
Alors, je voudrais juste rappeler à ce stade que
il existe dans le droit français des éléments de préférence européenne. Les Européens ont des droits supplémentaires par rapport aux autres étrangers.
Alors juste, c'est l'occasion pour cette notion de reprendre le contrôle. Je voudrais simplement rappeler que c'était le cœur de la bataille qui, en Grande-Bretagne, a conduit au Brexit. Et qu'en matière de reprise de contrôle, c'est exactement l'inverse qui s'est produit après le Brexit. C'est-à-dire que le nombre d'entrées clandestines en Angleterre a doublé, et simplement les Britanniques se sont privés des Européens eux-mêmes.
Mais c'est moins d'Européens et plus
voilà. Donc voilà à quoi on s'expose si on va trop loin dans cette direction. Juste avant de terminer, peut-être Frédéric Dabi, moi j'ai l'impression en même temps que l'on vit aujourd'hui dans une, pour paraphraser quelqu'un, dans une sorte d'extrémisme d'atmosphère, ou plus exactement d'atmosphère qui semble dominée par l'idée, par la perspective que le Rassemblement National représente au fond maintenant la seule alternative au macronisme. Est-ce que dans ce que vous lisez, vous savez, vous regardez de la façon dont nos compatriotes se comportent, vous iriez jusque-là, Frédéric Dabi?
Oui, dans le sens où quand on interroge les Français pour savoir qui incarne le mieux l'opposition à Emmanuel Macron, c'est le RN qui arrive nettement en tête. Le RN commence à incarner une opposition d'alternative, sur le mode « on ne les a jamais essayés, pourquoi pas eux ?» C'est des mots qu'on trouve dans les enquêtes qualitatives, versus la France insoumise qui apparaît comme une opinion désordonnée, tribunicienne, et qui ne recèle pas de crédibilité en termes d'alternative politique à l'issue du quinquennat d'Emmanuel Macron. Finissons par ce qui sera le rendez-vous de 2024, les élections européennes. La dernière enquête IFOP fiduciale donnait un bloc de droite extrême, Bardella, Maréchal, Dupont-Aignan, on peut l'appeler droite extrême, souverainiste, en tout cas le bloc RN, autour de 40%. C'est quand même quelque chose qui est absolument inédit. Alors, ce ne sont que des sondages, la campagne n'a pas commencé. Je m'applique à moi-même et aux enquêtes de l'IFOP tous ces éléments de prudence, mais c'est absolument du jamais vu. Et puis, il n'y a qu'à voir l'intervention présidentielle qui a été quand même très fortement axée sur « nous avons fait cette loi pour ne pas permettre, faciliter l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir ». C'était le sous-texte de l'intervention.
Et donc, en effet, nous, si c'était le cas, si ces chiffres se confirment, on verra aux élections européennes, ce serait à nouveau un tremblement de terre dans la vie politique française. Merci Frédéric Dabi. Je rappelle que vous êtes directeur général opinion de l'IFOP. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Noël, bonnes fêtes de fin d'année, car nous interrompons nous vous retrouverons le 4 janvier, si ma mémoire est bonne, Jean-Claude, ou peut-être même le 5, je ne sais plus. Le 5 janvier qui est un samedi. En tout cas, passez de bonnes fêtes, bon Noël, bonnes fêtes de fin d'année. Et merci de nous être fidèles. Merci à vous toutes et à vous tous. Et donc à très vite après les fêtes.